Chapitre 15. Restée seule, Claire oublia le lieu où elle était, ce qui se passait autour d'elle, et se mit à penser. Une rumeur lointaine, accompagnée de la fanfare du bien-aller, montait de la forêt. Sur le pavé de la grande route, les voitures roulaient sonores. La jeune femme se fit aveugle et sourde à tout ce qui n'était pas Philippe. Elle se plut à reconstituer sa vie telle qu'elle aurait dû être. Elle remonta le courant du passé et fit le compte des jours de bonheur dont elle s'était volontairement privée. Éloignée de cette époque funeste, elle avait peine à comprendre les sentiments auxquels elle avait obéi. Cette espèce de délire d'orgueil auquel elle s'était trouvée en proie était vraiment inexplicable. Cette préoccupation d'être mariée avant le duc, coûte que coûte, lui sembla tellement mesquine qu'elle en rougit. Était-ce donc entraînée par de si vulgaires motifs qu'elle avait compromis toute son existence? Elle se dit que Philippe, si gravement outragé qu'il eût été, ne pouvait pas se montrer inexorable. Elle avait cependant encore devant les yeux son profil sévère et hautain. Elle avait encore dans les oreilles le son de sa voix quand il avait dit « Vous apprendrez un jour la vérité, vous saurez que vous venez d'être encore plus injuste que cruel. Vous pourrez alors vous traîner à mes pieds en implorant votre pardon. Je n'aurai pas pour vous une parole de pitié. » Ces terribles engagements ne lui avaient-ils pas été dictés par la colère? Était-il homme à les maintenir, sans faiblesse et sans indulgence? Elle le revit, le front penché dans ses mains, brisé par la douleur, puis se relevant et lui montrant son visage inondé de larmes. Certes, il l'adorait, et ce soir-là, il lui donnait sa vie pour une parole d'espérance, pour un regard de tendresse. 8 mois s'étaient écoulés. Par la cruelle blessure que la main de la jeune femme avait faite, l'amour de Philippe était-il parti tout entier? Claire, du bout de son pied, traça machinalement quelques lignes sur le sable. « Quand on a aimé profondément, » dit-elle à haute voix, comme si elle eût voulu poser la question qui l'agitait, au bois, au vent, à l'espace, à la nature tout entière, qui l'entourait, mystérieuse et recueillie, « Quand on a aimé comme il m'aimait, peut-on oublier ?»« Quand on a aimé profondément, » lui répondit une voix railleuse qui semblait descendre vers elle, « on n'oublie jamais. » Claire se dressa vivement et, levant la tête, elle vit le duc qui, entré depuis un instant dans le kiosque, la regardait en souriant, accoudée à la balustrade. « Convenez que j'arrive à point pour vous répondre, » fit-il gaiement. « Était-ce à moi que vous pensiez, au moins ?» Claire le regarda en fermant à demi les yeux avec une souveraine impertinence. « Ma foi, non, » répondit-elle. « Tant pis. » « Et vous ?» demanda la jeune femme. « Qu'est-ce que vous venez chercher ici ?» Le duc descendit les 6 marches du perron et, s'approchant de Claire, « C'est vous que je cherche, » dit-il en s'inclinant. « Dans quelle intention ?»« Dans l'intention de causer à cœur ouvert. Vous m'avez assez mal accueilli il y a 1 heure quand je vous ai offert ma compagnie. J'ai pensé que vous seriez peut-être devenu plus sociable. Et me voilà. Êtes-vous en humeur de me répondre ?» « Mon Dieu, mon cher duc, je crois bien que nous n'avons rien à nous dire. »« En êtes-vous sûr? Je constate avec douleur que vous êtes devenu extrêmement dissimulé. Vous avez du chagrin et vous ne voulez pas en convenir. » Claire haussa dédaigneusement les épaules. « Et moi, je constate, dit-elle, que vous baissez intellectuellement d'une façon visible. Vous revenez sans cesse aux mêmes idées avec un petit air pleurard qui fait peine à voir. » Rassurez votre cœur trop sensible, je n'ai pas de chagrin et ne suis point disposé à en avoir pour vous faire plaisir. Soit, reprit le duc avec bonhomie, je ne demande qu'à être trompé. Je m'étais fait à votre sujet des idées qui me paraissaient justes. Mais il faut croire, comme vous le dites si bien, que j'aurais perdu ma lucidité. Ce matin, il m'avait semblé que vous étiez nerveuse, agitée. Cette partie de chasse était très attrayante. Vous n'avez pas voulu y prendre part. Vous avez passé votre temps à observer votre mari. Eh bien, dit Claire en réprimant un mouvement. Eh bien, continua le duc, chose singulière, Monsieur d'Herblay n'avait pas du tout l'air de s'occuper de vous. Il était tout à la duchesse qu'il avait réclamée comme cavalier servant. Et vous, au lieu d'être satisfaite de lui voir faire galamment son devoir, vous lui lanciez des regards foudroyants. D'où vous avez conclu? Demanda Claire froidement. que le bon accord que vous prétendez exister entre lui et vous n'est pas réel, qu'il n'apprécie pas à sa valeur le trésor que le hasard, ou plutôt ma mauvaise fortune, lui a donné. Alors, que vous dirais-je ? 1000 petits faits, autrefois négligés, se sont groupés dans mon esprit. Je me suis rappelé l'étrange attitude que vous aviez le jour de votre mariage. J'ai commenté vos tristesses, analysé vos colères. Et, ayant pesé le pour et le contre, je suis arrivé à cette conclusion que vous n'avez pas, quoi que vous en disiez, tout le bonheur que vous méritez. » L'attaque était brusque et directe. En un instant, le duc avait tourné les défenses si patiemment élevées par Claire. Audacieusement, il lui faisait comprendre que, comme une place qui n'a point de secours extérieur à attendre, il allait bien falloir subir un siège régulier. La jeune femme ne voulut point reculer d'un pas. Elle alla même au-devant de la bataille, et avec une amertume qu'elle ne cachait plus. « Alors, vous, âme compatissante et généreuse, dit-elle, vous avez pensé que le moment serait peut-être favorable pour m'offrir quelques consolations ?» Le duc, avec une grande expérience de cette petite guerre, ne consentit pas encore à suivre Claire sur le terrain qu'elle lui offrait si hardiment. Il eut à jamais perdu sa cause en avouant si promptement le calcul qu'il avait fait. Il voulut paraître entraîné par un sentiment profond et sérieux, et quittant le ton de persiflage sur lequel il avait parlé jusque-là, « Vous me jugez mal, Claire, dit-il avec tristesse. J'ai fait, croyez-le bien, tout ce qui a dépendu de moi pour vous oublier. Quand je suis arrivé ici, je croyais ne plus vous aimer. J'ai pensé que je pourrais vous revoir sans danger. On disait que vous étiez heureuse. Et je m'en réjouissais. Ah, pauvre fou que j'étais! Après tant de déceptions et d'épreuves, je croyais mon cœur usé et mort. Avec une profonde douleur, je l'ai senti se ranimer et renaître. En un instant, j'ai retrouvé tous mes souvenirs. Je vous ai revue, hélas, si soucieuse, malgré les efforts que vous faisiez pour dissimuler vos soucis et votre tristesse. Vous auriez pu tromper un autre que moi. Mais depuis longtemps, votre visage ne s'est plus rien caché à mes yeux. Heureuse, voyez-vous, je vous aurais adorée de loin sans qu'une parole de moi vînt troubler votre repos. Mais vous souffriez. Alors, je n'ai plus été maître de ma volonté. Je me suis senti entraîné vers vous par une puissance irrésistible et j'ai compris qu'il n'y avait pour moi, en ce monde, d'autres femmes que vous. » Claire avait écouté avec étonnement ces paroles passionnées. Pas une fibre de son cœur n'avait tressailli. Cet homme qui lui parlait si tendrement, était-il bien celui qu'elle avait aimé au point d'en perdre la raison ? Sa voix, qui la faisait autrefois tressaillir, la laissait maintenant froide et un peu irritée. Elle vit en lui un de ces adroits comédiens qui bouleversent l'esprit et ébranlent les nerfs des femmes mal équilibrées. Elle ne pensa pas un instant qu'il pût être sincère et ne vit dans sa poursuite que le désir assez bas de satisfaire un soudain caprice. « Savez-vous que vous ne manquez pas d'impudence ? » dit-elle avec âpreté. « Ayant eu autrefois à choisir entre une femme que vous disiez aimer et une fortune qui vous tentait, vous n'avez pas hésité. Vous avez fermé votre cœur et ouvert votre caisse. Puis, aujourd'hui que vous avez l'argent, vous ne seriez peut-être pas fâché d'avoir la femme. Et vous venez me faire des avances. Ah, mon cher duc, vous êtes trop ambitieux. Pas tout, ce serait du cumul. » Le duc hocha la tête avec mélancolie. « Comme vous me parlez durement, dit-il, je savais bien que vous m'en vouliez toujours. » Claire fit un brusque mouvement, ses yeux brillèrent d'indignation et d'une voix tranchante. « Vous en vouloir ? » s'écria-t-elle. « Vous vous flattez, mon cher. Si j'éprouvais pour vous un sentiment quelconque, ce serait de la reconnaissance, car enfin, si je suis la femme de M. d'Herblay, qui est aussi utile que vous êtes incapable, aussi dévoué que vous êtes égoïste, aussi généreux que vous êtes mesquin, en un mot, qui a toutes les qualités que vous n'avez pas et aucun des défauts que vous avez, n'est-ce pas à vous que je le dois ?» Le duc se mordit les lèvres. Chacun des mots de cette violente apostrophe l'avait atteint en plein visage, comme un soufflet. « Monsieur d'Herblay, dit-il en essayant de dominer Claire du regard, est sans doute parfait. Mais il a un léger travers qui rend sa perfection inutile, pour vous du moins. Il ne vous aime pas. S'il y a quelques mois seulement qu'il est votre mari, s'il vous appréciait à votre valeur, il devrait être à vos côtés, attentif et tendre. Où est-il ? Près de la duchesse. »« Votre femme ! s'écria Claire avec violence. Puis, faisant un effort sur elle-même et reprenant son calme, « Eh bien, pourquoi en serais-je émue quand cela ne vous trouble pas ?»« Oh, moi, je ne suis pas jaloux, » répondit le duc d'un ton léger. « Et puis, je connais la duchesse. C'est une admirable poupée, couverte de dentelles et ornée de bijoux. Sous cette parure, ni tête, ni cœur. Où la passion irait-elle se loger ? Tandis que votre mari... » Il se rapprocha et parlant de près à la jeune femme, comme s'il eût craint que le venin de ses paroles, en passant dans l'air, perdît de sa perfide âcreté. Vous l'avez vu près d'elle il n'y a qu'un instant. Oh, l'ingrat qui méconnaît son bonheur, l'imprudent qui risque de le perdre. Allez, laissez-le avec la duchesse, ils se valent. Et souffrez que je reste près de vous, moi qui vous apprécie, moi qui vous comprends, moi qui vous aime. » Claire fit un pas en arrière, comme pour mettre une distance plus grande entre elle et le duc. Puis, oppressée, voulant paraître calme et ne le pouvant pas, « Ce que vous me dites là, » fit-elle, « tenez, je veux en rire. » « Oui, comme dit Figaro, pour ne pas être obligé d'en pleurer, » reprit Bligny, « car, au fond, c'est profondément triste. Vous voilà lié à un homme qui, pour vous, ne sera jamais moralement qu'un étranger. » Tout, en lui et en vous, se combat et se repousse. C'est un plébéien et vous êtes une patricienne. Je suis sûr qu'il a des principes égalitaires et vous, vous êtes aristocrate jusqu'au bout des ongles. Il est rude comme tout ce qui émane du peuple et cela vous choque. Vous êtes fier comme tout ce qui tient à la noblesse et cela le froisse. Les deux races dont vous êtes sortis sont ennemies nées l'une de l'autre. Les aînés de ce monsieur ont fait gaillardement couper la tête de vos grands-parents, ma chère. En un mot, tout vous dispose à vous haïr et rien ne vous entraîne à vous aimer. » Claire releva superbement la tête et bravant le duc. « Je l'aime cependant, dit-elle, vous le savez bien. » « Vous vous imaginez que vous l'aimez, reprit Bligny avec douceur et comme s'il essayait de faire entendre raison à un enfant. « Parce que vous êtes jalouse. » Mais il y a des jalousies de toutes sortes. Il y a celle qui naît de l'amour et il y a aussi celle qui naît de l'orgueil. C'est de celle-là, j'en jurerai, que vous souffrez. Votre mari vous néglige et si peu que vous teniez à lui, cela vous irrite. C'est très naturel et vous vous attachez à lui par esprit de contradiction. Toutes les femmes sont ainsi faites. La crise que vous traversez, eh mon Dieu, je la connais sur le bout du doigt. » Claire, silencieuse, pleine d'étonnement et de dégoût, écoutait le duc développer son audacieuse analyse. Bligny prit pour de la curiosité ce qui n'était que de la stupeur, et, avide de poursuivre l'œuvre de démoralisation qu'il croyait avoir si bien commencée, « Tenez, je joue franc jeu avec vous, » poursuivit-il en riant. « Carte sur table. La crise se compose de quatre phases, comme le mouvement de la lune. » En ce moment, vous êtes dans la première, dite phase de la résistance. Votre mari vous échappe, vous acharnez à le reconquérir, c'est une idée fixe. Lui, il résiste, et bientôt vous vous apercevrez que vos efforts sont inutiles. Ce galant homme, qui se bornait à marivauder, va en venir résolument à l'infidélité. Et vous allez entrer dans la seconde phase, dite de la désillusion. Tout s'écroule, vos illusions sont perdues, votre tranquillité détruite. Vous tombez dans un abattement profond et vous vous tournez tout d'abord vers Dieu, seul consolateur des grands désespoirs. Mais comme votre époux poursuit le cours de ses succès, votre foi commence à s'aigrir. Cet heureux homme est trop gai et vous êtes trop triste. Après tout, vous n'avez que 22 ans et vous avez droit à l'amour. On ne peut pas vivre toujours seul. Une sourde irritation s'empare de vous et vous entrez dans la troisième phase, dite de la colère. Un voile est tombé de vos yeux, vous voyez votre mari tel qu'il est en réalité, c'est-à-dire maladroit, commun et sot. Vous êtes étonné de l'avoir regretté une minute et vous vous découvrez des aspirations vagues à certaines compensations. Ah, cette fois, gare à l'époux volage, car la fin de la crise approche. Vous voilà toute rougissante encore, mais résolue, qui mettez votre joli pied dans la phase de la consolation. Regardez devant vous. Tout y est rose, tout y est fleuri, tout y est gai. On y oublie admirablement. Allons, encore un pas et vous y êtes. Vous hésitez. Madame, permettez que je vous offre la main pour vous faire les honneurs de cette phase à laquelle je vous attends avec un peu d'espérance et beaucoup d'amour. » Le duc voulut prendre la main de Claire. Brusquement, la jeune femme le repoussa et, lui montrant un visage assombri et menaçant, « Vos calculs sont ingénieux, dit-elle, et témoignent d'une longue étude des femmes. Seulement, je regrette de voir que, si vous avez consciencieusement observé les folles et les dépravées, vous avez négligé de tenir compte de celles qui sont honnêtes. Il y a, je suis fière de vous l'apprendre, des femmes malheureuses qui ne perdent pas la raison, qui refusent de se venger et qui se trouvent suffisamment consolées quand elles gardent l'estime d'elles-mêmes et méritent le respect d'autrui. » « Bien, bien, fit le duc, vous êtes dans votre rôle, phase de la résistance. Si vous persistez, je ne pourrai que vous haïr. Je persiste parce que je ne puis que vous aimer. Ce que vous appelez votre amour est une persécution indigne. Quel homme êtes-vous donc pour vous exposer à ma haine après avoir mérité mon mépris ?» Le duc resta un instant silencieux, regardant Claire debout, frémissante et farouche. Une tresse de ses blonds cheveux s'était détachée et flottait éclatante sur son épaule. Sous son amazone de drap bleu, sa poitrine se soulevait, sa main, crispée sur sa cravache, agitait la mince tige de cuir tressé comme une arme. Elle était admirable ainsi. Un désir furieux s'empara de Bligny. Il devint pâle, ses yeux se troublèrent, et, marchant vers la jeune femme les bras ouverts, « Rien ne me coûtera pour vous obtenir !» balbutia-t-il. Il la touchait. Elle sentit son souffle brûlant passer sur son visage. Elle se rejeta en arrière et, les sourcils bas, la bouche serrée, « Prenez garde » cria-t-elle. « Si vous faites un pas de plus, je vous traite comme le dernier des lâches et je vous coupe le visage. » Il la vit, le bras levé, énergique et redoutable, prête à frapper, et recula d'un pas. Alors, fière d'avoir triomphé, redressant sa haute taille, mais tremblant encore de la résolution prise, « En suis-je donc venu à ce point que vous osiez m'insulter ainsi? Suis-je donc si publiquement abandonné qu'on puisse impunément me faire subir de tels outrages? Si j'avais près de moi un homme pour me défendre, m'attaqueriez-vous de la sorte? Donc, je suis seul et on peut tout se permettre. Eh bien, vous voyez que je suis capable de me défendre moi-même. » Le duc, redevenu calme, s'inclina devant la jeune femme. « Vous changerez, dit-il, l'avenir est à moi. Je suis patient, j'attendrai. » Cette froide et audacieuse réponse exaspéra Claire. Elle regarda le duc avec des yeux égarés et, la voix entrecoupée par la violence de son émotion, « Sachez-le donc, s'écria-t-elle, fussé-je la plus malheureuse des femmes, dussé-je, ce qui est impossible, devenir la plus indigne et me perdre ?» Eh bien, vous êtes arrivé à m'inspirer tant d'aversion et de dégoût que je prendrais n'importe qui, un inconnu, un passant, plutôt que vous. » Ce cri de fureur laissa le duc très froid. Et avec le même sourire confiant qui avait le don de mettre Claire hors d'elle, il dit « Nous verrons !» La jeune femme ne se donna même pas la peine de répondre. Elle se détourna de lui et, montant vers le carrefour dont elle était séparée par un rideau mouvant d'aunes et de trembles, elle se rapprocha de l'endroit où les valets de pied de M. Moulinet préparaient, pour les chasseurs, un appétissant encas. Au fond d'elle-même, un sentiment de crainte était resté de la brusque agression du duc. Elle l'avait vu, les yeux étincelants, les mains tremblantes, le visage blême, avide de la saisir. Elle eut horreur de la lutte à laquelle, grâce à son énergie, elle venait une première fois d'échapper. Et, n'ayant plus confiance en l'honneur de ce gentilhomme qu'elle avait pendant si longtemps adoré comme un dieu, avec une tristesse immense, elle vint se mettre sous la protection des laquais. « Attention !» dit le premier maître d'hôtel à ses aides. « Voilà notre monde qui arrive !» Par toutes les routes de la forêt, comme une bruyante avalanche, les voitures revenaient, roulant sourdement sur le tapis vert du gazon. Les cavaliers suivaient les bas-côtés. Et c'était de joyeux appels de toute cette jeunesse, échauffée par une course folle. Ils étaient encore à plus de 500 mètres, et le bruit de leurs voix animées arrivait distinctement. Libres de tout souci, livrés tout entiers à la douceur de l'heure présente, ils jouissaient complètement de cette belle journée. Claire fit, entre cette gaieté et sa mélancolie, un douloureux rapprochement. Elle en voulut à la nature entière d'être en fête quand elle était si triste, ne se souvenant pas, hélas, qu'elle était elle-même l'unique auteur de son mal. Une voiture, en entrant dans le rond-point, l'arracha à ses désolantes pensées. La marquise était assise au fond, comme dans sa vaste bergère, un petit châle de dentelle sur les épaules. Claire alla à elle comme vers le salut. L'air lui sembla purifié par la présence de cette noble femme. Auprès d'elle, en un instant, elle retrouva la tranquillité. Madame de Beaulieu, indolente comme à son ordinaire, n'avait pas mis de hâte à descendre dans la forêt. C'était surtout pour voir sa fille à cheval qu'elle s'était arrachée à sa douce paresse et qu'elle avait fait atteler sa grande calèche. « Eh quoi ? » dit-elle, « tu es ici, toute seule ? Où donc est ton mari ? Et Sophie, que fait-elle ? » ?»« La baronne vient de me quitter à l'instant, » répondit Claire sans se troubler. « Et quant à Philippe, j'ai exigé qu'il suivît la chasse. Il ne faut pas qu'un mari s'affiche en public avec sa femme, cela ferait jaser. » Elle était rieuse et paisible. La marquise la contempla avec une satisfaction profonde. Jamais le soupçon n'avait effleuré son esprit un peu superficiel. « Vous êtes assez heureux pour vous donner le luxe de cacher votre bonheur, » dit madame de Beaulieu. « Ah, c'est Philippe, c'est la perle des gendres !» Le gros des cavaliers, arrivant au grand trot, coupa la parole à la marquise et permit à Claire de dissimuler l'embarras que lui causaient les éloges de sa mère. La Brède et du Tremblay, sur leurs chevaux blancs d'écume, l'un rouge et comme prêt d'éclater, l'autre très pâle et semblant sur le point de défaillir, étaient bruyamment entourés par l'escadron joyeux, répandant à profusion des paroles d'éloge sur la vigueur avec laquelle les deux jeunes gens avaient soutenu la poursuite. Pontac, sa trompe à la dampierre à la bouche, sonnait à plein poumon l'alali par terre, pendant que son piqueur Bistoc, à pied, les bras ballants, arrondissant le dos d'un air maussade, tirait derrière lui sa grande bique rouge et mâchonnait entre ses dents des critiques violentes à l'adresse des amateurs qui jouaient à la chasse, esquintant les braves bonnes bêtes de chevaux pour courir après des morceaux de papier, sans votre respect, comme si on était des chiffonniers. D'un coup d'œil, Claire vit Philippe qui revenait avec Suzanne et la baronne. Sophie, prenant les devants, s'arrêta auprès de son amie et lui jeta dans l'oreille ces mots qui mirent des roses sur les joues de la jeune femme. Quand nous sommes arrivés, il n'était déjà plus auprès d'Athénaïs. Il l'avait planté là tout net, la laissant à cet imbécile de Pontac qui ne sait que faire du bruit dans un corps de chasse. Un joli talent qu'il a, ce grand Benet, et agréable en société. Elle se mit à rire, regardant, en clignant des yeux, avec l'insolence involontaire des myopes, Athénaïs qui arrivait, assourdie par la trompe de son compagnon, mais n'osant rien dire, dans la crainte de paraître manquer de solidité. En apercevant Claire, Athénaïs mit cependant son cheval au galop et, adressant un geste ironique, au duc immobile et indifférent, debout à quelques pas de la calèche de madame de Beaulieu, « Eh bien, duc, vous voilà retrouvé ?» En même temps que madame d'Herblay, hein ? C'est très aimable à vous d'avoir tenu compagnie à votre cousine. » Athénaïs lança un regard diabolique à Philippe, essayant de faire pénétrer une injurieuse pensée dans son esprit. Elle voulait ainsi prendre sa revanche de l'abandon un peu humiliant dans lequel il avait trop promptement laissé. Le maître de forge, pris à partie, s'avança, ferme et presque menaçant. Claire pâlit. Les deux hommes allaient-ils se trouver lancés l'un contre l'autre par l'implacable haine de la duchesse ? Je n'ai pas été assez heureux pour pouvoir tenir compagnie à ma cousine, comme vous le dites si bien, répondit le duc en s'inclinant respectueusement devant madame d'Herblay. Quand je suis arrivé ici, ma tante m'avait devancé. Alors, mon cher, c'est que vous avez un mauvais cheval, il faudra le changer, reprit la duchesse. Et les dents serrées par la colère en voyant sa méchanceté déjouée, elle donna un violent coup de cravache sur les oreilles de sa jument, qui bondit de côté et se cabra, secouant avec fureur son mors blanc d'écume. Le duc s'avança froidement, saisit la bête par la bride, l'arrêta sur place, et, aidant Athénaïs à descendre, « Rien n'est de plus mauvais goût que de faire ainsi pointer son cheval, ma chère, » dit-il de près, avec son air impertinent. « Sans compter que vous montez médiocrement et que vous pourriez vous faire désarçonner. ce qui serait d'un effet fâcheux. Croyez-moi, défaites-vous de ces façons-là, elles sentent la boutique à plein nez. » Et laissant la duchesse blême de rage, de son même pas tranquille, Bligny alla rejoindre ses amis et toaster avec eux au succès de la journée. Claire, frissonnante et glacée, était montée dans la voiture de sa mère et l'avait priée de la reconduire à Pont-Aven. Elle avait comme un poids sur le cœur. La réponse faite par le duc à Athénaïs, et qui avait si à propos empêché la périlleuse intervention de Philippe, lui paraissait l'avoir engagée dans une sorte de complicité. Elle fut sur le point de tout dire à son mari, préférant son blâme, sa colère, à cette odieuse connivence avec l'homme qui l'avait outragée. Cependant, elle n'osa point parler. En soupirant, elle se vit condamnée éternellement à ce mensonge qui lui causait une si violente répulsion, obligée de tromper partout et toujours et de montrer un visage souriant quand elle avait le désespoir dans l'âme. Elle jeta de timides regards sur Philippe qui chevauchait à côté de Bachelin, remonté dans son cabriolet. Le maître de forme montrait un visage tranquille. Il causait avec le vieux notaire sans que sa voix trahît aucune émotion. Claire pensa qu'elle avait pu se tromper en croyant voir dans ses yeux une lueur de colère quand il s'était avancé vers le duc. Mais elle connaissait le pouvoir de Philippe sur lui-même. Peut-être en ce moment se contraignait-il à paraître insouciant. Claire espéra qu'il était jaloux. Au risque de sa vie, elle en vint à désirer le voir sans porter en menace, lever la main sur elle comme il avait fait une fois dans la nuit terrible. Elle n'accepta pas de rester plus longtemps dans l'incertitude. Elle se promit de lui parler dès le lendemain pour son frère et de pénétrer enfin dans la mystérieuse pensée de son mari. Sa résolution étant prise, elle voulut être gaie, elle fit effort pour dissiper les nuages qui voilaient son front et, comme le comédien qui entre en scène pour débiter un rôle, elle se fit un masque souriant. Au loin, sous la feuillée, on entendait le murmure affaibli de la joyeuse compagnie et, éveillant les échos des bois, la trompe de Pontac qui sonnait la mort du cerf, incarnée dans les dissemblables personnes du gros Labrède et du petit du Tremblay.